Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 12 août, on a dépassé hier les 37 degrés à Bron. Le thermomètre devrait chuter à partir de mercredi. Une opération de démoustication a été menée vendredi dernier dans le quartier de la gare de Mézieux. Le périphérique Laurent Bonnevet fermé à la circulation jusqu'à dimanche prochain. Il n'est plus possible de circuler sur l'axe périphérique entre Saint-Fons et Bron-Paris. Le métro B est à l'arrêt également pendant 5 jours. La commune de Grigny changera de nom au 1er janvier 2025. Le mois d'août est l'une des meilleures périodes pour observer les pluies d'étoiles filantes des Perséides. Pour avoir quelques conseils pratiques, nous avons rencontré François Haru, médiateur scientifique. Il sera notre invité. Dernier match de préparation et défaite pour l'OL face à Arsenal 2-0.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a dépassé les 37 degrés hier à Bron à 16h, plus de 9 degrés au-dessus des normales d'après Météo France. La nuit a été encore étouffante. Le léger vent de sud renforce encore l'impression de sécheresse. Le département du Rhône est placé en vigilance orange canicule au moins jusqu'à demain mardi. Des perturbations orageuses devraient apporter un certain répit pour mercredi. Les records enregistrés l'an dernier, 41,4 degrés, ne devraient pas être atteints. Les orages sont attendus dans l'après-midi de mardi où les températures redescendront un peu avec 34 degrés en deuxième partie de journée. Le thermomètre devrait chuter mercredi à 28 degrés à Lyon. La plus grande prudence est toutefois recommandée pour éviter les coups de chaleur. Pour toute question ou demande, un numéro vert a été mis en place par le gouvernement, le 0800 06 66 66. La qualité de l'air du territoire est dégradée à mauvaise. Alerte également Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le quartier de la gare à Mézieux, une opération de démoustication a été menée vendredi dernier entre 2h et 4h du matin. Un majolan a été diagnostiqué comme porteur de la dengue, une maladie tropicale qui a la particularité d'être transmise par la piqûre du moustique tigre, insecte qui a largement colonisé le département. L'objectif est de limiter au maximum le risque de propagation de la maladie. Quelques jours après avoir piqué une personne malade, le moustique tigre développe le virus et peut le transmettre aux personnes qu'il pique dans le voisinage. 127 cas de dengue ont été dénombrés dans la région entre le 1er mai et le 2 août 2024. Des cas importés et non des cas autochtones.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le périphérique Laurent Bonnevet est fermé à la circulation à partir de ce lundi 12 août et jusqu'à dimanche prochain. Il n'est plus possible de circuler sur cet axe entre Saint-Fons et Bron-Paris. 149 heures de travaux, très précisément. Le périphérique Laurent Bonnevet est fermé entre la porte des Essarts et la porte de Gerland. Objectif, la création d'un tunnel qui abritera le passage du futur T10. Cette nouvelle ligne est prévue pour 2026, reliera la gare de Vénissieux au secteur de Gerland en passant par le centre de Saint-Fons. 80 personnes et environ 30 engins sont mobilisés pour installer un tunnel de 40 mètres de long, 18 mètres de large et près de 7 mètres de haut sous le périphérique. Un chantier déjà réalisé au mois de mai dernier dans le secteur de Croix-Luizet à Villeurbanne avec la construction d'une trémie dédiée au mode doux. Le métro B est à l'arrêt pendant 5 jours jusqu'à jeudi inclus. Cette interruption de service est liée à la nécessité de réaliser des travaux et des tests d'augmentation de la capacité et de confort voyageurs, explique le réseau TCL. Les bus relais desservent les stations de Gare Pardieu-Vivier-Merle à Saint-Genis-Laval, hôpitaux Lyon-Sud, toutes les 6 à 15 minutes, dans la même amplitude horaire que les métros. Attention toutefois, les stations Stade de Gerland et Gare d'Oulin ne sont pas desservies par les bus. Pour rejoindre Pardieu depuis Charpennes, il y a 3 possibilités, les bus C2 et 70 ou le bus relais du T1. La commune de Grigny changera de nom au 1er janvier 2025. Elle deviendra Grigny-sur-Rhône. La décision gouvernementale a été publiée samedi au journal officiel. Le Conseil d'État avait retoqué la demande des élus locaux car il estimait que la commune et les villes de Grigny dans l'Essonne et dans le Pas-de-Calais étaient trop loin les unes des autres pour qu'il y ait ambiguïté. Le dossier avait été remonté en s'appuyant sur le plan historique et culturel. D'ailleurs, cette nouvelle dénomination sera célébrée par une exposition en hommage au fleuve Rhône. Dans les faits, la ville de Grigny dans le Rhône reçoit du courrier destiné à la commune homonyme de l'Essonne, ce qui fait perdre du temps aux fonctionnaires pour les renvois.
Lyon Demain, créateur d'envie.
Le mois d'août est l'une des meilleures périodes pour observer les pluies d'étoiles filantes, des perséides, un ciel dégagé, une chaise longue et peut-être de simples jumelles. Voilà tout l'équipement dont vous avez besoin. Pour avoir quelques conseils d'observation, nous avons rencontré François Haru, médiateur scientifique et bien connu sur cette antenne pour être le présentateur de l'émission Vision Nocturne.
L'astronomie, c'est très simple. Je suis tombé dedans en 1969 quand l'homme a marché sur la Lune. Mes parents nous avaient réveillés à 2h du matin, heure française donc, pour regarder l'événement. Et il y avait ma grand-mère qui regardait ça et qui nous disait « ça va être la fin du monde ». Et ça n'a pas été la fin du monde. Et donc voilà, à partir de ça, j'ai un peu mordu à l'hameçon de tout ce qui est un peu spatial et astronomie. Et puis ensuite, ben, comme tout le monde, j'ai regardé la Lune avec des jumelles, j'ai découvert plein de choses. Et c'est à partir de 1987 que j'ai réellement commencé la partie vulgarisation scientifique.
Vulgarisateur scientifique, c'est quoi exactement en ce qui concerne vous, votre métier ?
Alors la vulgarisation scientifique, on appelle ça aussi la médiation scientifique. Eh bien l'exemple le plus concret qu'on peut retrouver, c'est l'émission C'est pas sorcier. Les grands vulgarisateurs comme Jamie et Fred. Voilà, et donc la médiation scientifique, ça s'apprend, c'est devenu un véritable métier puisqu'aujourd'hui on a des personnes qui travaillent dans des musées et bien sûr des planétariums. Hein. Il y a plus de 70 planétariums en France, de grands planétariums. On connaît celui de Vaux-en-Velin.
Quelles sont les difficultés pour observer les étoiles quand on est ici, pour observer le ciel quand on est ici à Lyon ?
C'est bien sûr ce qu'on appelle la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, elle est de deux ordres. On a la pollution lié à l'éclairage urbain, bien sûr, même si on fait des efforts ces derniers temps où on a des villages qui apprennent à éteindre leur lumière la nuit. Et puis on a une autre forme de pollution lumineuse qui est liée tout simplement à la présence de la Lune. Par exemple, lorsque c'est une pleine Lune, c'est un peu difficile pour regarder le reste du ciel.
Quels sont les objets célestes les plus facilement observables à l'œil nu ou en tout cas avec un équipement basique que tout le monde peut avoir ?
L'ensemble de la voûte céleste, on peut voir jusqu'à 3000 étoiles à l'œil nu. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien sûr, on va avoir donc bien sûr la Voie lactée, ce fameux champ d'étoiles, on va dire, qui traverse le ciel, une sorte de bande un petit peu lumineuse, un peu laiteuse, qu'en Provence on appelait ça le Camino des Estelles. Et donc la Voie lactée, bien sûr, les constellations, bon là c'est uniquement pour s'amuser à faire du repérage, et bien sûr les astres errants, les planètes à l'œil nu, on les reconnaît hein, quand on connaît un petit peu leur position et qu'on sait qu'elles ont un mouvement propre par rapport aux étoiles, bien sûr la Lune.
Existe-t-il des applications ou des outils en ligne qui peuvent aider les débutants à identifier les constellations et les planètes visibles depuis leur ville ?
Alors bien sûr, tout d'abord, c'est d'écouter l'émission Vision Nocturne sur Lyon Demain, où je donne pas mal d'infos et d'indices. Mais bien sûr, il existe des applications. L'application la plus connue et gratuite pour une bonne partie de son utilisation, elle est gratuite, c'est Stellarium. Très belle application qui vous simule le ciel. En gros, vous transformez votre smartphone ou votre tablette en planétarium de poche. Et ce qui est génial, c'est que cette application, elle est couplée avec l'accéléromètre du smartphone. Et du coup, ça permet, par exemple, de regarder à travers son smartphone comme si on regardait à travers une fenêtre. C'est-à-dire quand on vise les constellations avec l'écran du smartphone, on se déplace et ça bouge en même temps, comme si on voyait à travers les constellations, quoi, avec les noms et tout. Donc c'est super pour sensibiliser, pour apprendre.
Quel type de matériel, jumelles, télescopes, est-ce que vous recommandez pour commencer l'observation astronomique en ville ?
Pour l'observation astronomique en ville, bien sûr, moi j'aurais toujours tendance à préconiser une bonne paire de jumelles. Pourquoi ? Parce qu'une paire de jumelles, c'est un bel entonnoir à lumière. En plus, on utilise les deux yeux, donc c'est assez confortable pour découvrir le ciel. Alors c'est vrai qu'en ville, si on est place Bellecour, les jumelles, elles vont pas servir à grand-chose. Par contre, dès le moment où on est à l'abri de pollution lumineuse, les jumelles, c'est l'idéal pour découvrir le ciel, même des petites jumelles pour enfants en plastique. Rien que ça, ça permet d'emmagasiner un peu de la lumière par rapport aux yeux. Après, bien sûr, ben, y a les instruments, lunettes, télescopes, etc. Ne pas investir tout de suite dans un gros télescope parce qu'on risque d'être déçu. Parce que dans un gros télescope, y a tout un tas de contraintes mécaniques, etc. Et par contre, depuis quelques années, on a vu naître des télescopes nouvelle génération, des télescopes 2.0. Je pense par exemple à des télescopes comme Stellina, Vaonis, enfin toutes ces marques de télescopes. On a deux startups françaises qui avaient innové dans ce domaine. Et là, vous avez carrément un laboratoire d'observation, un observatoire portable. Vous posez ça sur une table, il sait où il se trouve, il se calibre avec le ciel. Ensuite, il vous propose un catalogue de ce qu'on peut observer en temps réel sur le smartphone ou la tablette. Et ensuite, on peut lui dire, je veux voir telle galaxie, telle nébuleuse. Le télescope fait automatiquement les mouvements, prend les photos, traite les photos. Et plus vous le laissez longtemps sur l'objet, plus il va vous faire une photo digne de grands observatoires des années 80, quoi. Et là, donc aujourd'hui, avec ce genre de télescope, vous pouvez observer des nébuleuses, de la matière interstellaire, des galaxies, et c'est assez spectaculaire. Alors bien sûr, les astronomes amateurs vont peut-être un peu critiquer ce genre d'instrument, parce qu'on aime bien mettre l'œil à l'oculaire, mais il faut savoir qu'on a un de ces instruments, le matériel d'Unistellar, qui comporte un petit oculaire. En fait, l'oculaire, il vise un écran de très bonne définition, et en fait, on regarde dans l'oculaire, on a quand même cette sensation, mais ça reste de l'électronique pure. Mais c'est vrai que ça, c'est l'idéal, puisqu'en plus, il filtre la pollution lumineuse, donc voilà, c'est parfait.
Et quels sont les critères à prendre en compte quand on choisit justement ce type de matériel, et est-ce qu'on peut être conseillé?
Comme boutique, il y a des boutiques parisiennes qui sont bien connues, je pense à De Vauchevet, etc. Mais sinon, on a à Lyon la boutique Equinox dans le 6e arrondissement, et bien sûr les magasins Nature et Découverte. Vous avez quelques opticiens aussi qui vendent un peu de matériel astronomique, et sinon, bien sûr, vous avez les clubs d'astronomie qui sont l'endroit idéal pour découvrir l'utilisation d'instruments, puisqu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter un instrument tout de suite. Il y a ça dans les clubs d'astronomie. Je pense par exemple au club d'astronomie de Lyon-Ampère, qui sont implantés dans les locaux du planétarium de Vaux-en-Velin. Ils organisent souvent des veillées, on travaille ensemble d'ailleurs. Le CALA, le club d'astronomie de Lyon-Ampère, voilà. Eux, ils ont tout un tas d'instruments à dispo. Bon, il y a Planète Science aussi. Bon, dans certaines villes, Planète Science a pas mal de matériel astronomique. Planète Science également propose des formations pour acquérir des étoiles. Acquérir des étoiles, c'est-à-dire avoir des petits diplômes, petite étoile, grande étoile, etc., en relation avec l'Association française d'astronomie. Donc, il existe même comme ça, plus que de la vulgarisation, c'est de la formation à devenir astronome en herbe.
Et un observatoire à Lyon, qui est à Saint-Genis-Laval, je crois.
Alors, bien sûr, l'observatoire de Lyon à Saint-Genis-Laval, aujourd'hui, c'est plus que des bureaux avec des labos de recherche, mais ils ont quand même leur bonne vieille lunette coudée qui est très belle à visiter, avec un bâtiment assez surprenant d'ailleurs. Cet observatoire me fait beaucoup penser à l'observatoire de Meudon, à Paris, à Meudon.
Quelles sont les meilleures périodes de l'année et les meilleurs horaires pour, je dirais, voir quelque chose dans le ciel?
Alors l'idéal pour découvrir le ciel, eh bien, c'est l'hiver, la nuit est plus noire, la nuit dure plus longtemps, puisqu'à 18h, 17h, il fait nuit, jusqu'à 8h du matin, pratiquement. La lune est beaucoup plus haute dans le ciel en hiver, parce que la lune, lorsque vous avez une pleine lune occupe la place du soleil avec 6 mois de décalage. Donc forcément, en été, vous avez vu que le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel, c'est pour ça qu'il fait très chaud et que les jours durent plus longtemps. Eh bien, en fait, en hiver, c'est la lune qui prend le relais. Donc vous avez la lune qui est beaucoup plus haute dans le ciel, elle reste beaucoup plus longtemps dans le ciel aussi, donc c'est plus intéressant pour l'observer. C'est intéressant en hiver. Bien sûr, en été, on voit un petit peu mieux la Voie lactée par rapport à la configuration, mais surtout, en été, bien sûr, on peut voir des étoiles filantes, les fameuses Perséide en ce moment. Alors pourquoi tout à l'heure je parlais du Camino des Estelles, la Voie lactée? Parce qu'en Provence, il y a ce qu'on appelle les larmes de Saint-Laurent. Le 10 août, c'est la Saint-Laurent. Et en fait, Laurent, c'était un petit garçon qui avait voulu emprunter le Camino des Estelles, le chemin des étoiles, et il s'y était perdu. Et chaque fois qu'on repasse à cette époque, on voit les larmes de Saint-Laurent qui est perdu dans la Voie lactée. Voilà, donc c'est la mythologie provençale, ça.
Quels sont les conseils que vous donneriez à un débutant pour s'initier à l'observation astronomique?
Alors, pour s'initier à l'observation astronomique, eh bien, en fait, il y a, en effet, se procurer une petite carte du ciel qu'on a toujours avec soi dans la poche, qu'on n'a pas besoin de recharger. Donc, ça, c'est pratique. Petite carte du ciel qui tourne, on trouve ça dans les magasins. Donc, bien sûr, Stellarium sur la tablette. Ensuite, pour s'initier, après, il y a des magazines, des revues d'astronomie. Il y en a quelques-unes. Et puis, bien sûr, c'est de s'inscrire à un club astro. Ça, c'est vraiment l'idéal parce qu'on va rencontrer d'autres jeunes passionnés de la même façon. Et c'est un peu comme le sport. On se motive entre nous, entre passionnés, on se raconte des choses, on se motive. Dernièrement, j'ai participé à l'animation d'une formation justement de petites étoiles, et on avait des enfants, c'était la région parisienne, on avait des enfants qui étaient venus en stage sur 48 heures, et ils avaient chacun apporté leur télescope que les parents leur avaient offert. Donc on leur a appris à monter leurs instruments et à les régler.
Si on veut faire appel à vos services, en un mot,
il faut aller sur www.mhdproduction. MHD comme la magnéto-hydrodynamique, donc mhdproduction.fr, donc ça c'est mon site, et bien sûr, pas hésiter à écouter les émissions sur Lyon Demain mensuelles qui s'appelle Vision Nocturne.
François Haru, médiateur scientifique et également présentateur de l'émission Vision Nocturne sur Lyon Demain. Dernier match de préparation et défaite pour l'OL qui s'est incliné hier 2-0 sur la pelouse d'Arsenal. Les Lyonnais terminent avec deux frappes cadrées en 90 minutes. Rendez-vous à Rennes pour l'Olympique Lyonnais dimanche 18 août, donc dimanche prochain, à 20h45 pour son entame en Ligue 1. Johan Lopenon ne reviendra pas tout de suite à Lyon. Le milieu de terrain arrivé à l'OL en 2022 en provenance du Stade Malherbe de Caen a été prêté avec une option d'achat de 2,5 millions d'euros à Nantes jusqu'au 30 juin 2025. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.